Bon, eh bien, je remercie donc François d'être venu nous parler. Donc, je vais vous faire passer le numéro complet de Genesis, donc cette revue qui travaille essentiellement sur la critique génétique et dont ce que vous avez ici est consacré donc à la bande dessinée, et où François a donné un texte avec des dessins que je vous ai fait passer, puisqu'il en avait une version en PDF. Donc ce que je vais faire, c'est ce soir commencer par présenter son travail en essayant d'expliquer à la fois l'intérêt que j'y ai pris pour ce séminaire, et puis profiter de sa présence et de ce qu'il a voulu éventuellement dire pour qu'on puisse travailler avec lui sur la question du dessin, et notamment des questions des dessins d'enfants. Asseyez-vous, installez-vous. Des dessins d'enfants, mais je pense qu'il y a quand même un besoin d'abord préalable pour mettre en place un certain nombre de choses. Je crois que le point de départ pour entrer dans le texte qu'il nous a donné, c'est quelque chose que j'ai trouvé un paradoxe, que j'ai trouvé un peu paradoxal. Oui, si vous vous mettez là, il ne pourra pas mettre les dessins. Il ne pourra pas projeter ses dessins. Voilà, qui est ce qu'il dit au tout début donc, du texte qu'il a donné à Genesis, qu'il a un imaginaire très pauvre, qu'il a très mauvaise mémoire et qu'il ne se souvient pas de ses rêves et que ses rêveries, tu dis un moment, mes rêveries restent sans développement. Et puis, deux pages plus loin, quelque chose qui semble être apparemment une contradiction mais sur laquelle j'aimerais bien qu'on travaille, c'est que tu parles de ta pensée rêveuse et divergente, tu parles d'un naturel contemplatif, tu parles justement du dessin comme quelque chose qui active la rêverie. Donc il y a l'idée que quand même il y a de la rêverie, sauf qu'elle doit être activée par le travail du dessin, et de quelque chose qui est alors très spécifiquement visuel, hein, c'est donc le cadrage fétichiste dont tu parles avec ces espèces, donc, si j'ai bien compris, de fenêtres ouvertes dans une feuille de papier qu'on fait glisser sur des images. Alors, ça c'est une première dimension de la chose, et ça m'a beaucoup également frappé, c'est que tu dis que les dessins d'enfants, les parents ne sont pas gardés, etc. Bon. En travaillant pour le séminaire, j'ai découvert une chose que j'ignorais, mais que doivent connaître ici les gens qui connaissent bien l'histoire de la peinture, c'est que lorsque Klee publie son catalogue, vous savez que Klee commence son catalogue avec ses dessins d'enfants. Ses dessins d'enfants sont les numéros 1, 2, 3, je crois que ça va jusqu'à 6 ou 7 dessins d'enfants. Puis il y a un immense vide jusqu'au premier dessin de la période qu'il considère de la période dans son catalogue de création artistique. Klee, lui, par exemple, et c'est un geste d'artiste tout à fait particulier, sur lequel, d'ailleurs, le livre d'Emmanuel Pernoud est très intéressant, là, sur l'origine, l'histoire du dessin d'enfant, hein, comment on a commencé à s'intéresser au dessin d'enfant, comme je parlais la dernière fois. La question du primitivisme, la question de la psychologie des enfants, c'est extrêmement tardivement, hein, c'est les élèves de Bergson, hein, qui ont commencé à mettre en place l'idée que le dessin d'enfant disait quelque chose d'essentiel. Un de ces aspects, c'est ça chez Klee. Alors là, on n'a rien, et tu dis qu'au fond, les dessins de l'apprentissage sont des dessins qui sont des dessins de reproduction et d'appropriation, qui n'ont pas finalement lieu d'être, finalement, que tu ne mettrais pas dans ton catalogue de dessins d'enfants, en aucune manière. Donc ça m'a beaucoup intéressé, la question de pourtant il y a un des dessins que tu mets dans Genesis où tu montres le cousin en train de dessiner. Et ça m'a beaucoup frappé parce qu'en même temps, il n'y a pas de souvenir des dessins, mais il y a un souvenir du dessiné, qui est quelque chose qui est construit comme un souvenir du dessiné.
Sauf qu'en fait, c'est moi-même. Je dis que c'est mon cousin, mais c'est je dessine devant des enfants. C'est une photo que j'ai reprise. Et là, j'ai imaginé un cousin, mon admiration devant lui.
Alors, il y a, une autre chose qui m'a beaucoup frappé dans le texte et sur lequel je reviendrai, parce que c'est des questions qui se posent avec les dessins des enfants, enfin les enfants dont on s'occupe, c'est la façon dont tu présentes le net comme une espèce de grande banque d'images, où on va à la pêche aux images, et où finalement il y a cette espèce d'énorme quantité de dessins disponibles, qui fait que la trajectoire du dessin, c'est de l'impersonnel au personnel. Qu'il y a vraiment cette idée qu'il y a des images en quantité absolument, on est dans un bain, donc on plonge la main, on imagine ça, on sort des images, et que la médiation pour aller donc de l'impersonnel au personnel, c'est peut-être pas la seule, mais c'est celle dont tu parles très explicitement, donc c'est ce que tu appelles le cadrage fétichiste. Cette fenêtre artificielle que tu déplaces sur les images et qui nous intéresse évidemment non seulement parce qu'il y a le mot fétichiste dedans, mais parce que une des questions fondamentales qui se posent dans l'approche psychanalytique des images, c'est que le fantasme a une structure de fenêtre. C'est même dans l'homme loup une des caractéristiques les plus stupéfiantes de l'homme loup, c'est que la fenêtre s'ouvre sur quelque chose. Que l'idée que l'image est une fenêtre par structure est une conception absolument fondamentale d'un des premiers et des plus brillants élèves de Husserl, qui s'appelait Eugen Fink, qui a développé donc la théorie phénoménologique de l'image autour de l'idée que l'image est fenêtre. Et par exemple, je lisais ça récemment, Hans Belting, qui a beaucoup travaillé sur de Florence à Bagdad, sur le contraste entre les cultures de l'image, a tiré l'attention sur le fait que la présence d'un cadre, par exemple, dans l'art oriental, est attestée très tardivement au XIXe siècle, parce qu'en fait, la fenêtre, la structure fondamentale de la fenêtre, c'est le moucharabieh. Et que la fenêtre dans l'économie imaginaire du monde musulman n'est pas une fenêtre sûre qui ouvre, n'est pas ce cadre qui apparaît assez finalement dès le 14e, 15e siècle autour de la peinture classique européenne. La fenêtre, c'est quelque chose qui est un filtre de la lumière extérieure, en particulier de l'imprégnation de l'unité de la lumière mystique, et que le dessin géométrique sur le moucharabieh est quelque chose qui empêche justement, qui déshabille la lumière de tout ce qui la parasite en termes d'objet. Et donc on a presque une situation symétrique et inverse de la fenêtre chez nous, un imaginaire et un questionnement sur ce que c'est que le rapport au dedans et au dehors, qui est anthropologiquement pris dans des coordonnées entièrement différentes. Toutes choses qui sont, je crois, extrêmement importantes, parce que dans le travail que je fais ici, j'essaie de sensibiliser de faire servir l'iconologie contemporaine, l'anthropologie de l'image, ça, à essayer de dégager quelque chose d'un peu moins frustre des dessins des enfants que « Oh là là, il a fait une grosse maman, là, on a l'impression qu'on voit un sexe sur le corps du petit, etc. » C'est-à-dire des interprétations, des lectures, des visions du dessin d'enfant, de sa couleur, de son graphisme, de sa pression sur le papier, de la place des mots, etc., qui sont extrêmement pauvres par rapport à ce que l'iconologie contemporaine donc là, il y a vraiment autour de cette idée de cadrage scopique fétichiste une présentification du travail de l'activité spécifique du dessin, de mettre le dessin à l'intérieur. Il y a ensuite j'ai mis les choses de façon très associative en prenant des notes, donc tu vois, si tu veux rebondir sur tel ou tel point. Quelque chose qui m'a énormément frappé, c'est l'usage du coq à l'âne visuel. C'est-à-dire, nous avons tendance à te traiter finalement dans l'association libre, que le travail associatif verbal et que toute une dimension de ce qui serait l'association iconique, l'association dans le passage de l'image à l'image, qui pourrait avoir une autonomie particulière par rapport à l'activité associative verbale qui, dans l'entretien avec les enfants, double assez souvent hein, ce travail du dessin, du squiggle par exemple, que tu mets vraiment au centre de ton travail et que tu as mis au moins, je crois, sous deux formes que tu mentionnes. La recherche du haïku visuel, donc les bandes de trois dessins, 3 sur 3, hein, donc comme si c'était les figures des idéogrammes, des kanji, avec en général des rythmicités temporelles, hein, du temporel, c'est décidé, je plie le bagage, tu peux me suivre. Mais avec en même temps, d'image en image, une ouverture, une sorte de béance qui fait que on ne sait pas très bien si c'est ce qu'on a associé d'image en image qui est perturbé par la séquence sujet-verbe-complément, ou bien premier temps, deuxième temps, troisième temps, ou si c'est au contraire ce qu'on s'imagine entendre dans ces pliés, c'est décidé, je plie bagage, tu peux me suivre, qui est perturbé par l'agencement des images. Et au fond, l'irreprésentable, c'est ce qui serait, au fond, la représentation de ce décalage lui-même, qui ne peut être, au fond, qui ne peut ni être ni dessiné ni dit, mais qui ne peut exister que dans le décalage entre le dessiné et le dit. Alors, c'est là où, effectivement, de la rêverie s'active. Et c'est là où j'ai trouvé qu'au fond, le dessin découpé de sa légende donne finalement, quand tu sépares le dessin de la légende, la légende, c'est de créer justement cette liberté, une sorte de liberté pour se réapproprier quoi ? Ce que tu appelles un ailleurs nomade propice à la rêverie. Et là, ça m'a beaucoup frappé parce qu'il se trouve que Bion, qui est un auteur psychanalytique dont j'ai beaucoup parlé ici, il se trouve que Bion réfléchit beaucoup sur ce paradoxe n'avoir aucune capacité à rêver, ou plus exactement, d'être dans un état très particulier que toi tu décris en utilisant des termes de la philosophie bouddhique, de la spiritualité du bouddhisme, qui est un état désaturé de l'esprit, dans lequel la rêverie ne consiste pas à avoir justement la tête remplie de choses dont on a envie et dont on se souvient, mais au contraire de faire le vide qui rend possible qu'on puisse, comme tu dis de façon assez impressionnante, aimer les objets qui se présentent dans, non seulement nous faire aimer non seulement les personnes, mais aussi tous les objets qui nous entourent sans aucune hiérarchie. Et que donc il y a là, il faut d'abord un cadrage, une désaturation, et dans cette désaturation, quelque chose devient possible, devient aimable. Ça m'a fait penser à très associativement aussi, puisque tu parles de du lyrisme mélancolique, que Bion était un grand lecteur de Keats, Scheller, tous ces gens-là, à quelque chose qui est une tension dans le type de mélancolie, par exemple, qui affleure, qui est un des affects dominants de ton dessin, des poèmes. Et une des choses qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y a dans l'effondrement mélancolique un syndrome, un symptôme, c'est un syndrome très particulier qui a été identifié par Cotard et qu'on appelle la perte de la vision mentale. Alors c'est des choses qu'on voit peu souvent. Moi j'en ai vu deux fois dans ma vie des Cotard complètement effondrés, parce qu'en général on donne des médicaments aux gens qui n'atteignent jamais ce niveau d'effondrement de la mélancolie. C'est le fameux moment où les Cotards disent « j'ai pas de foi, j'ai pas de cœur, etc. Je suis mort, je suis éternel, etc. » Donc c'est des gens extrêmement impressionnants à voir. Et la disparition de la vie psychique chez les Cotards se marque à ceci, qu'ils essaient de se souvenir, ils essaient d'avoir des images mentales, et rien ne prend forme. C'est-à-dire, ils ne peuvent à aucun moment activer quelque chose de l'ordre d'un contenu qui pourrait avoir l'air d'être une vision de quoi que ce soit, une vision mentale de quoi que ce soit. La perte de la vision mentale. Et j'ai trouvé que ton dessin, est-ce que tu racontes de l'expérience du vide, etc., du rapport à la feuille blanche, est vraiment une sorte de manière de tenir à distance ce que serait un effondrement que seul le dessin, tu vois, comme tu le pratiques, fait sentir, ce que serait la perte de la vision. C'est un peu comme si c'était l'antidote absolu, la perte de la vision. Mais on la sent planer, hein, comme un danger, comme une menace, d'où émerge justement vers un dehors, quelque sorte. Enfin, c'est pas l'intériorité, tu insistes beaucoup là-dessus. T'es pas un dessinateur de l'intériorité, tu peins la fenêtre, avec presque le minimum qu'il faut de part et d'autre pour qu'on voit que c'est une fenêtre, qui donne accès à ce dehors. Le besoin de désaturation, hein, tu le dis très bien, c'est faire le vide pour retourner au point zéro, comme disent les maîtres du zen, pour retrouver l'espace avant la représentation. Se tenir là, juste là, face à la feuille blanche, et se contenter de l'observer dans sa virginité vivifiante. Ce que tu appelles la tabula rasa, qu'on traduit toujours par table rase, alors que ça ne veut absolument pas dire table rase. En fait, tabula, c'est la tablette. La tablette, c'est la tablette à dessiner. C'est pas du tout la table, c'est une tablette sur laquelle les gens enduites de cire, sur laquelle on dessinait chez les Romains. Et j'ai trouvé que c'est là où je vais faire allusion à des choses que j'ai discutées déjà ici. Si tu veux, j'ai trouvé que ce que tu faisais avec cette question du cadrage et de la construction de la possibilité d'ouvrir une fenêtre sur de l'autre et un monde peuplé d'objets, me rappelait quelque chose que j'ai essayé d'expliquer ici sur la... C'est un concept qui vient de Winnicott, sur l'objet transitionnel ou sur les espaces transitionnels. C'est qu'au fond, la fonction de l'objet transitionnel, c'est qu'on confond en général avec les objets qui sont traités comme des objets transitionnels, les bouts de l'ange, les choses comme ça. C'est que un objet transitionnel, c'est quelque chose qui rend vivable le lieu qui se creuse dans l'expérience de la séparation, de la mise à distance et de la découverte de la pluralité de perspectives d'autrui. Et que le travail de cette mise à... C'est pour ça que quelquefois, d'ailleurs, Winnicott parle pas tant d'objets transitionnels que d'espace transitionnel, en insistant sur la notion de transition, de la possibilité d'une séparation, dont le terme ultime est pouvoir se sentir, c'est pouvoir être seul en présence de l'autre, mais seul en présence de l'autre. Et cet objet transitionnel, j'avais fait remarquer qu'il n'y en a pas de deuil, c'est un objet, quand les enfants le perdent, il n'y en a pas de deuil. Quand il y a un deuil de l'objet transitionnel, ce qui arrive, ce qu'on peut voir, on voit les cicatrices chez certains adultes, en tout cas ça m'est déjà arrivé de l'observer, c'est extrêmement dramatique. C'est qu'on a vraiment l'impression que ce sont des gens qui sont pris dans des rapports très très adhésifs, très très collés à autrui et qui ont des gros problèmes. Et bien j'ai trouvé qu'au fond, que ce que tu dessinais avec ta fenêtre, c'était l'enforme de l'objet transitionnel. C'est-à-dire, c'est pas nounours, c'est le dispositif qui garde la trace de la possibilité d'accueillir des objets du monde extérieur et de les regarder d'un certain point de vue, et tu le dis même avec amour. Par là, vu là, on peut les regarder et les cerner avec amour. Ce n'est qu'à partir du vide, dis-tu, que je peux m'amuser à me projeter, qui est une phrase qui a pour nous une couleur mélancolique. C'est-à-dire que toi, le suicide mélancolique par excellence, c'est justement la défenestration. C'est-à-dire que quand celui qui était censé voir à travers la fenêtre est comme aspiré par le vide, et dans les exemples que j'ai souvent donnés dans ce séminaire, c'est accompagné d'un truc syntaxique, grammatical tout à fait étonnant. C'est que les gens ne disent jamais « je me suis jeté par la fenêtre ». C'est que ceux qui survivent décrivent l'expérience comme une expérience complètement passivante, d'effacement. Hein. Parfois même en passant à la troisième personne du singulier, il fut aspiré par la fenêtre, et il se voit dans la position de l'objet chant. Donc là l'idée de grâce au dessin, de faire sentir les appuis du monde, c'est-à-dire le fait qu'on pourrait être on pourrait se défenestrer et qu'en réalité c'est par là que la fenêtre tient le monde, un dedans, un dehors, une capacité de projection imaginaire est sûrement un des points les plus importants du, de, au fond de ce que tu montres avec cette, ce type de fenêtre. Je vous signale justement, c'est un truc sur lequel j'ai fait quelques recherches, le suicide mélancolique dans les pays arabes n'est pas un suicide par défenestration, c'est la pendaison. Chez nous aussi, c'est la pendaison. Mais c'est la, la pendaison, le poison, etc. Mais la défenestration, c'est pas un monde dans lequel on se défenestre, le monde des moucharabiens. La fenêtre, il joue pas du tout le même rôle d'organisateur corporel, anthropologique, dans le rapport à la lumière, à la géométrie. Et on voit bien dans le moucharabier, justement, que le dessin géométrique vise à purifier la lumière des objets sensibles qui empêchent d'en voir la pure réflexion, l'émanation divine qui rentre à l'intérieur de la maison, comme à l'intérieur de l'âme. C'est pas du tout, nous, nos yeux comme fenêtres de l'âme, tu vois, comme dit Alberti, ce sont des choses comme ça. Alors, j'avance un petit peu et puis je vais te poser une ou deux questions. Il me semble que ce que tu donnes à... ce qui m'avait toujours beaucoup frappé dans tes dessins, c'est que cette manière de donner à voir ce que c'est que la fenêtre à travers laquelle on voit les choses, c'est dessiner un regard sur le regard et jamais simplement les choses qui sont dessinées. Et ça me faisait penser à ce que nous cherchons, parce que Bion en tout cas propose de rendre sensible l'analyste, c'est que ce qui est intéressant chez l'analyste, c'est pas son écoute, c'est comment il s'écoute écouter. Un analyste, ça commence non pas quand il écoute, quand il s'écoute, écoute. Évidemment, à la différence de la projection visuelle, on est là dans une expérience qui est probablement plus passive d'une certaine manière, qui est une expérience où c'est moins la projection que le filtrage et de s'écouter filtrer ce qu'on écoute, qui fait le travail préalable à l'association de l'analyste. Mais il y a là une sorte de réflexivité dans ton travail qui est tout à fait frappant dans le texte, bien sûr, une épaisseur théorique qui n'a échappé à personne, mais il y a quelque chose de tout à fait frappant dans cette réflexivité. C'est comme si c'était un dessin du dessin. C'est un dessin et un dessin du dessin qui est toujours mobilisé et dont on voit quand même les arêtes, me semble-t-il, se présenter. Pas simplement quand tu écris un texte théorique sur ton travail, tu vois, c'est même les types, les légendes, les décalages, le travail fait voir à l'observateur attentif cette chose-là. Alors, moi j'ai au fond deux questions. La première, c'est que c'est un peu que tu te faire réagir sur cette idée que le dessinateur, quand il est resté dessinateur adulte, ça c'est quand même un phénomène qui n'est pas commun, puisque tu es un dessinateur qui ajoute en plus des légendes de dessin, tu fais demandé de parler de bande dessinée, même si c'est pas vraiment c'est de la bande dessinée, c'est un espace possible où inscrire ton travail, mais on va pas dire que c'est de la bande dessinée paradigmatique ce que tu fais. Voilà, ce qui me paraît important, c'est comment est-ce que cette réflexivité sur le dessin se dessine. Qu'est-ce que tu pourrais au fond faire valoir qui finalement ne peut pas se dire, mais ne peut que se montrer au sens du dessin. Parce que un des objectifs que je poursuis dans ce séminaire sur la psychanalyse d'enfants, c'est d'essayer de faire autre chose que de traiter les dessins et les activités ludiques des enfants comme un pis-aller, faute que les enfants parlent, faute que les enfants associent, faute qu'on puisse être dans des situations transférentielles, canoniques, sur le divan, etc. Et donc, de réfuter entièrement l'idée que là où les adultes associent avec des mots, avec les enfants, c'est quelque chose comme les dessins et ce qu'ils racontent. Non, c'est de dire qu'il y a dans l'activité du dessin quelque chose qui exprime une puissance imaginative propre, irréductible à celle du langage. Or, c'est un lieu polémique pour les psychanalystes, cette chose-là. Parce que les associations lacaniennes, toute la tradition, enfin, une grande partie de la tradition de lacanienne d'application des concepts de Lacan à la psychanalyse des enfants, a essentiellement travaillé à ce que finalement le dessin et l'imaginaire restent sous l'autorité du symbolique, comme quelque chose qui est à symboliser. Et au fond, le symboliser l'imaginaire, c'est l'opération inverse de la manière dont Lacan parle du rêve, qui est une imaginarisation du symbolique qu'on trouve dans les phobies des enfants. Le but, c'est de désimaginariser le symbolique. Toute une autre école de psychanalyse, notamment les Italiens, se sont beaucoup intéressés à la... Enfin, se sont, depuis une vingtaine d'années, s'intéressent à ce qui pourrait être la dynamique propre du dessin, du jeu, de la peinture, de la couleur, du travail, de ce qui se communique par le biais de l'image, par le biais de ce qui se montre. Et là, du coup, c'est tout à fait autre chose qui est en jeu. Il s'agit de favoriser la croissance psychique, la figurabilité n'important pas moins que la dissibilité, tu vois, chez un enfant. Et étant relativement différent. C'est pas... Il y a des accès à la figurabilité ou à la non-figurabilité, des manières aussi de pouvoir résister à la tache noire, de pouvoir résister à certains aux traits, etc., pas faire des crises d'angoisse, etc., de pouvoir l'incorporer dans l'économie psychique qui n'est pas moins importante que ce qui arrive à se nommer. Et donc là, on est en manque, si tu veux, dans cette perspective-là, d'outils pour penser ce qui est radicalement iconique. Quelque chose qui relève de ce qui se montre et pas de ce qui se dit. Avec évidemment l'ennui, c'est que quand les choses se montrent, on a l'impression qu'elles sont très très proches de ce qui pourrait se dire. Mais il y a un reste, il y a des décalages qui interviennent dans cette perspective. Et donc voilà, c'est un peu dans cette... c'est pour ça que je voulais te demander un peu, voilà, comment toi, tu pas du tout de poser des questions qui seraient des réponses aux questions des psychanalystes, mais il m'a semblé que le travail sur le dessin, la légende, la fenêtre, la figurabilité, la désaturation, la rêverie, capacité à la fois d'avoir activé la rêverie, ressemble incroyablement à ce que nous essayons de faire avec les petits quand on joue à dessiner avec eux. Au fond, le problème quand on fait un squiggle, c'est une espèce de gribouillis dont on parle, etc., c'est d'arriver à ce moment où le squiggle va activer la rêverie non seulement de l'enfant mais de l'adulte. Et ceci ne nous est pas absolument immédiat. C'est très complexe de saisir, au fond, quels sont les moments, les appuis qui font que, comme Winnicott l'avait déjà observé, lorsque ça marche bien, le jeu du squiggle, très très vite, les enfants vont vous parler d'un rêve, d'une image de cauchemar, ou de quelque chose qui a trait vraiment rapidement au problème pour lequel ils sont amenés à consulter, et avec un type de liberté qui permet un travail analytique. Mais ça reste quelque chose d'extraordinairement énigmatique, à savoir pourquoi et comment, en jouant avec la partie d'un gribouillis, ça
empêche. Il faut que ça soit vraiment du gribouillis, ça peut être du dessin un peu plus figuratif.
Alors, l'idée du squiggle, qui est un mot qui veut rien dire, hein, c'est un mot inventé, c'est assez amusant que, en fait, ce que dit Winnicott, c'est qu'il faut le tracer les yeux fermés. Donc on se met déjà dans... c'est intéressant parce qu'il le dit une fois, après il ne le répète pas, et donc on l'oublie souvent. C'est les yeux fermés. Et le squiggle, donc déjà, met dans un état de pas trop se repérer, qui est presque onirique, qui est presque un état. Et c'est tour à tour. Et c'est assez compliqué de la part du thérapeute de savoir, qui est averti d'un certain type de problème, qui repère tout de suite un certain type de problème, c'est compliqué de savoir si au fond il suit les indications du trait ou il suit les indications de la situation dans laquelle l'enfant est amené à consulter. Par exemple, je caricature, hein, mais s'il fait un truc qui ressemble à un personnage et qu'on sait qu'il fait des cauchemars ou un personnage particulier apparaît, quelle est la part que le... Quelle est au fond, là, techniquement, la part que l'analyste va donner à le fait d'infléchir ce gribouillis quand c'est son tour, dans le sens d'un visage, ou bien de suivre les potentialités du gribouillis en les développant dans un sens ou dans un autre. Et lui-même, quand son gribouillis va être repris par l'autre. Winnicott s'autorise des moments où, très clairement, il cherche à faire apparaître une association à partir d'une image dont l'enfant a parlé. Mais parfois non. Parfois non, parfois. Ça vient comme ça. Et ce n'est pas forcément d'ailleurs le plus improductif. Mais c'est une des choses auxquelles je réfléchirai, et j'en donnerai, donc je le dis pour ceux qui assisteront aux prochaines séances, une des choses sur lesquelles je travaille beaucoup, c'est de savoir si au fond le squiggle est un exemple unique, une technique, ou si en comprenant très bien de quoi il s'agit avec cette question de la figurabilité et du hasard, on ne pourrait pas imaginer d'autres jeux en comprenant les variations de ces jeux les uns par rapport aux autres. J'avais parlé la dernière fois du flipbook en particulier, de l'usage des flipbooks à partir donc des dessins sur Déjeuner sur l'herbe de Manet, qui en fait était un flipbook. Le flipbook a été démonté pour être posé en planche. J'avais également évoqué ce que Warburg fait, ce qu'on voit dans tous les services qui s'occupent des enfants, on est des dessins d'enfants. Voilà. Maintenant, le dessin d'enfant est allé sur le mur. La stratégie de la vision warburgienne, qui cherche à isoler des éléments dynamiques dans le dessin, n'est pas du tout quelque chose auquel un thérapeute d'enfant irait penser à partir d'un étalement des dessins. Tu vois. Et donc je suis en train de mettre au point, j'ai même pensé faire ça avec des tablettes, parce qu'en fait on peut l'utiliser pour faire toutes sortes de choses avec les tablettes, on peut retenir l'ordre des traits, la pression des traits, etc. Puis les gamins dessinent plus facilement que nous sur les tablettes. D'imaginer, si tu veux, mais de façon raisonnée, ordonnée. Et pour ça, il faut une théorie du trait, du dessin, il faut avoir une idée de ce que c'est que ce qui se passe dans cette activité iconique, démonstration, comment une communication est établie par le dessin, éventuellement silencieuse, mais qui a dans le travail de la figurabilité et dans évidemment ses échecs, puisque les enfants qui vont très très mal ont des problèmes spectaculaires de figurabilité. Ils vont déchirer la feuille, ils vont être projetés du papier, ils vont le froisser, c'est-à-dire que le rapport au médium, et qu'il y a un médium entre soi et l'autre, est gravement perturbé, enfin, produit un effet très impressionnant. Enfin, en travaillant sur ça, mais il faut trouver un moyen de travailler ordonné qui réhabilite, hein, la façon dont on peut regarder les dessins des enfants. Et comprendre, pouvoir faire des hypothèses sur ce qu'ils construisent dans la relation à autrui, quand ils entrent en communication par ce médium qu'est le dessin. Tu vois, j'ai trouvé que qu'un adulte continue à dessiner, maintienne quelque chose de ça, dans le rapport au vide, dans le rapport à la fenêtre, dans le rapport à la désaturation, à la rêverie, avec l'horizon de la même, l'horizon mélancolique, hein, l'horizon des objets qui sont des objets qu'on peut aimer. En dehors et qu'on peut aimer enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé, qui inspire, si tu veux, qui me laisse rêver de psychanalyste.
Oui, et je m'étais fait une réflexion à ce propos, justement, c'est que le dessin, on l'a tous pratiqué quand on était enfant, avant le langage, ça facilitait les choses. On l'abandonne assez vite et radicalement à un certain âge. Et je travaille de temps en temps, mais pas du tout dans un cadre psycho, juste, j'anime des ateliers de dessin et d'écriture, de poésie, et je vois que les gosses passaient un certain âge, alors je ne sais même pas lequel, mais ils ont un rapport vraiment, ils rejettent complètement le dessin, ils se disent ne plus savoir dessiner, etc. Il y a une coupure radicale. Et je me faisais la réflexion que, en fait, celui qui conservait un rapport, jusqu'à un certain moment en tout cas, avec le trait, avec la gomme, avec le papier, avec le crayon, c'était l'écrivain. Mais qu'avec l'apparition des ordinateurs, la coupure est vraiment plus grande. C'est-à-dire vraiment l'adulte, il a perdu le rapport au trait, à l'expressivité comme ça, et au support du papier, qui n'a rien à voir avec l'écran, enfin, je trouve. Et dans mon cas, dans la mesure où je dessine toujours dans la perspective de faire des livres, même si sur mon blog je m'amuse à montrer des choses qui n'ont pas d'objectif, qui c'est je fais partie des écrivains de vraiment très 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 minoritaires, il y en a plus pratiquement qui maintiennent la pratique des deux. Dans le dur où je mets de côté les auteurs de bande dessinée qui eux font un travail qui n'est pas le même que moi, mais par exemple, Michaud, lui, peignait, dessinait. Il y en a assez peu, en fait. Donc, il y a une coupure là, assez impressionnante.
En tout cas, dans la culture, parce que j'ai
dans la culture, oui, voilà. Tout à fait. Peut-être que je peux montrer quelques dessins.